Bonjour et bienvenue sur RCF Poitou. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous hebdomadaire de Pause Famille, l'émission du service des familles du diocèse de Poitiers. Petit péché mignon, dites-vous, mais un jour, tout bascule et devient addiction. Pourquoi de petits plaisirs qui fait du bien passe-t-on à un ami qui vous veut du mal, comme le dit si bien Jacques Villeret? Où se situe la limite? Quand et pourquoi franchit-on la ligne rouge? Pourquoi ne peut-on plus s'en passer? Peut-on s'en défaire un peu, beaucoup? Là, j'ai mis pas du tout au lieu de passionnément, hein, comme la Marguerite. Comme parents, que faire pour éviter que... Est-ce qu'on peut éviter que ces ados, gérer en cas de doute, savoir quand et à qui demander de l'aide? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous sommes avec Sophie Deloum, addictologue. Sophie Deloum, bonjour.
Bonjour Marie-Vonne, merci de m'avoir invitée.
Alors, qu'est-ce que c'est l'addiction? Est-ce qu'il y a une définition?
Oui, au niveau scientifique maintenant, au niveau de la communauté scientifique, on arrive quand même depuis au moins une trentaine d'années à avoir une définition. Je pense qu'il y a différents degrés, différentes sévérités en termes d'addictologie. C'est un terme qui est arrivé dans les années 90 en parallèle aux neurosciences. On peut saluer aussi les médecins qui ont mis un petit peu les mains dans le cambouis après la crise du sida et la toxicomanie qui a fait beaucoup de ravages. Et à partir de là, l'addictologie est née en termes de sciences médicales. La définition, pour faire rapide, c'est une personne est addicte ou à un produit psychoactif, on en reparlera, ou à une conduite dite addictive. Cette conduite se répète infiniment. Et la personne sait qu'il y a des conséquences délétères pour sa santé, mais elle continue de consommer des produits psychoactifs ou avoir une conduite addictive. Donc la santé est mise en danger.
Alors pourquoi est-ce que vous avez dit seulement depuis les années 90 et le sida? Avant, on pouvait pas être on n'avait aucune addiction.
On était bien addict avant. Mais je pense qu'avant, on séparait la toxicomanie de l'alcoolologie. Donc c'est intéressant de voir par exemple les publicités qui étaient faites depuis, on va dire, le 19e siècle jusqu'au 20e, de voir les publicités réalisées, elles sont très jolies au niveau esthétique par rapport à l'alcool, par rapport à l'absinthe par exemple. On promet énormément l'alcool et je pense qu'en termes de politique de santé publique, à partir de certaines années, on va dire les années 50, on a commencé un petit peu à mettre son nez au niveau de l'alcoolologie et on voit aussi les grands courants de tempérance au niveau des anglo-saxons qui ont un autre regard par rapport à l'alcool. Écologie à proprement parler. Et là, c'est intéressant. Non, on pouvait être bien entendu addict. Hein. Fouquet a été un psychiatre important dans les années 50 en alcoolologie. Mais la toxicomanie était beaucoup plus, entre guillemets, antisociale. Donc, elle faisait un peu plus peur. La cocaïne est très, très courante dans certains milieux.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était réservé à des...
Une élite. Et maintenant, voilà. Non. Maintenant, on le sait très bien, on le voit aussi à Poitiers, ça arrive de Guyane directement, c'est une catastrophe.
Carrément de Guyane.
Ça arrive essentiellement de Guyane pour aller jusqu'en Hollande au niveau du marché de la drogue, comme on dit, et au niveau du marché de la cocaïne. Beaucoup de personnes qui vivent pauvrement en Guyane arrivent directement à Poitiers et souvent, elles se font, ce sont des femmes, et elles se font prendre, quoi.
Elles sont, on dit des mules.
Des mules, ce sont les mules, porteurs de produits.
Oui, exactement. Mais quand vous parliez de la publicité de l'alcool, il y avait dans les trains, dans les années 60, il y avait une photo d'un petit garçon qui disait à son papa, « Papa, ne bois pas, pense à moi ». Et il y avait toujours des gens pour rire qui disaient, « Ne bois pas, il rajoutait tout ».
Oui, mais ça a évolué.
Oui, mais ça, c'était l'humour du...
Oui.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme objet d'addiction? Parce que vous avez parlé des drogues. Diverses et variées. Vous avez parlé d'alcool. Est-ce qu'il y a d'autres addictions?
Je pense qu'il faut séparer. Avant, on disait encore dans les années 80-90, drogue douce, drogue dure. Pour dire que le tabac et l'alcool, c'était la drogue douce et le reste, c'est encore moins bien, c'était la drogue dure. Après, maintenant, on parle beaucoup plus, on parle de produits psychoactifs dans notre jargon, entre guillemets, en addictologie. Les produits psychoactifs rassemblent ce qui est licite et illicite. Ce qui est licite, c'est le tabac. Et l'alcool, on le trouve dans les supermarchés, bien dans les bureaux de tabac. Et ce qui est illicite, ce qui est là encore, et c'est encore un grand débat en France en termes de dépénalisation ou légalisation, c'est le cannabis. Donc on a le stupéfiant au regard de la loi qui est le cannabis. Après, on a la cocaïne qui est bien connue. On a l'héroïne où il y a moins de consommateurs qui sont mis sous substitution en France. On a mis du temps aussi. uniquement en 95, ce qu'on appelle aussi la réduction des risques est important pour nous en addictologie. Et après, on a les nouveaux produits de synthèse, on a même du protoxyde d'azote, on a la kétamine, etc. On
a avant, il y avait l'éther.
Oui, je pense qu'on avait des produits dits plus naturels. Maintenant, on a beaucoup de chimie. On a beaucoup de chimie, ce qui fait que les personnes arrivent facilement à avoir une stratégie d'achat, même sur Internet, le Darknet, hein, c'est l'envers de l'Internet. Et les personnes arrivent facilement on peut trouver un dealer, même au fin fond de la campagne Poitevine. Et après, on a tout ce qui est comportemental. Comportemental, je pense que ça a bien évolué. Moi, personnellement, en tant que praticienne en addictologie, je ne m'occupe pas des troubles alimentaires, mais les troubles alimentaires, que ce soit la boulimie ou l'anorexie, un gros travail qui est fait en termes de prise en charge. On peut avoir au niveau comportemental tout ce qui est jeu, c'est important. Hein, ça peut être le jeu en casino, ça peut être les jeux de hasard et de grattage, ça peut être le jeu en ligne. Il y a eu, la Covid a modifié aussi certains comportements et en termes de jeu, les gens s'ennuyaient peut-être pendant la Covid et ça a complètement implosé. Je veux dire, c'est multiplié par 60 au niveau de la présence de l'écran dans une vie. Mais ça peut être aussi, c'est beaucoup plus rare, ça touche un peu plus de 80% d'hommes. C'est l'addiction au sexe hein, où il n'y a plus du tout de plaisir, ça met mal à l'aise.
Et les femmes ne peuvent pas être addictes au sexe ?
Il y en a beaucoup moins.
Ah oui, c'est seulement une question de nombre.
C'est une question de nombre, exactement.
Donc, vous avez parlé des jeux, on a parlé du sexe, on a parlé d'Internet. Est-ce qu'on peut être addict au sport ?
Oui, la bigorexie. C'est la bigorexie.
La bigorexie, bigorexie. Ça fait un peu bigote.
Ça fait un peu, ouais. C'est un peu big. Mais oui, parce qu'en fait, c'est bigorexie, ça vient un peu de l'étymologie, de faire grossir ses muscles. Et au départ, ça venait beaucoup plus de la musculation. Et maintenant, ça touche surtout les sports d'endurance. Ça peut être le cyclisme, ça peut être la course à pied, où les personnes perdent le contrôle et ont un besoin effréné d'aller faire du sport. Mais après, elle n'est peut-être pas si courante que ça. Ce n'est pas évident non plus. C'est toujours pareil. C'est le repérage qui est compliqué en addictologie. Donc, le temps de repérer la personne, ou même qu'un médecin traitant s'en rende compte, parce que la personne finit par avoir mal à son corps. Il n'y a plus l'endorphine au niveau du cerveau, où là, on va faire un bon jogging. C'est qu'à un moment donné, c'est du plaisir. Ça remplace, c'est remplacé par de la douleur, des fractures, des cassures, parce qu'il y a trop de sport.
Parce qu'il y a trop de sport. Alors, quand est-ce qu'on passe, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on passe de petit péché mignon, parce que j'aime bien l'expression, c'est tout doux, tout gentil, à l'horreur, quoi, enfin, ou à l'addiction.
Mais je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, c'est complexe la maladie addictive. Il faut bien repréciser, quand je donnais la définition, c'est qu'au départ, c'est bon. Le sport peut être très bon. Le petit jeune va expérimenter son cannabis. C'est super sympa avec ses potes. Avec des potes, tant qu'à faire. Et à un moment donné, on va dire qu'on expérimente. On a un pays où on expérimente, par exemple, beaucoup le cannabis. Hein, c'est pas mal de faire un petit focus là-dessus. On expérimente le tabac quand on est préado. On expérimente le verre de vin en famille, même si les choses, en termes d'usage, se sont beaucoup modifiées. Et voilà. Après, il y a une répétition qui se fait. Donc, certains jeunes vont expérimenter, point barre, ça va s'arrêter. D'autres, à la rigueur, ça va être de façon très sporadique, de temps en temps, ils vont retourner vers le petit joint parce qu'il va tourner avec les potes, par exemple. Mais à un moment donné, il y a une installation qui se fait. Et l'installation, elle ne se fait pas chez tout le monde. Hein, pour ça que, après, quand on voit un peu des marronniers dans des revues, c'est tous addicts. Non, on n'est pas tous addicts. Il y a des degrés. Nous, on appelle ça des troubles d'usage en addictologie. Tout le monde ne vient pas addict. Je pense qu'il faut se poser des questions dans la dépendance. La dépendance, c'est un petit peu, on va dire, en gros, en amont de l'addiction, pour qu'à un moment donné, il y ait une répétition. Et cette répétition se fait sans arrêt. Et je veux dire, c'est là les degrés. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont facilement basculer dans une dépendance au niveau de l'alcool. Il n'y a pas besoin de boire 5 litres par jour, son cubi de vin, pour devenir forcément addict. Mais je pense qu'il y a une expérimentation, il y a une installation, il y a une répétition qui se fait. D'un profil à un autre de personnes, ça va être différent, parce qu'il faut voir l'aspect psychologique, qui est aussi important chez nous en addictologie, où là, la personne va basculer et ça va prendre, on va dire, tout le champ de sa vie. J'aime beaucoup prendre l'image de la fleur, Marie-Vonne, on a une jolie fleur avec des jolis pétales, mais à un moment donné, l'addiction va grignoter tous les champs de notre vie. À un moment donné, un jeune, il va décrocher au niveau de l'école.
L'école, oui.
Ça va prendre un pétale. Le deuxième pétale, ça va être ses amis. Le troisième pétale, ça va être, il est habitué à faire du sport ou autre, à partir en camp ou autre. Tiens, ça prend un troisième pétale, un quatrième pétale. C'est-à-dire, tous les champs de la vie de la personne vont être grignotés petit à petit parce que le produit où la conduite addictive va prendre toute la place dans la vie de la personne. Et c'est là qu'il y a des sévérités qui sont faites. Parce qu'il y a des personnes qui sont dépendantes, qu'on peut croiser facilement, et qui auront tendance à boire 2-3 verres le soir en rentrant chez elles parce qu'elles ont besoin de se relaxer. Hein, je pense que beaucoup voient ça aussi dans des séries américaines ou autres, où les gens prennent le petit verre le soir. C'est le rituel. Et là, c'est pareil. C'est un rituel qui est répété. C'est pas le rituel où on fait péter le champagne à Noël. Là, c'est un rituel où la personne a des stratégies d'achat particulières ou de conduite addictive, et la personne a des stratégies de consommation de son produit ou de sa conduite addictive, et ça grignote de plus en plus tous les champs de sa vie. Donc au départ, c'est tip-top, on a de la dopamine, où on a, parce que chaque produit apporte différentes, différentes, ça peut être dépresseur, ça peut être l'excitation avec la cocaïne, on ne va pas rechercher la même chose dans les produits. Donc certains, on a beaucoup de polyconsommateurs maintenant. Donc, c'est de plus en plus complexe au niveau des addictions.
Des polyconsommateurs.
Oui, rien que ça, oui.
Mais les journées ont que 24 heures, comment ils font?
Ils font que ça.
Ils font que ça. Alors, est-ce qu'il y a une différence quand on est entre potes, par exemple, si on se passe sa cigarette de chichon, ou si on le fait tout seul dans sa chambre? Est-ce que c'est des psychologies différentes?
Oui, c'est différent. Et c'est pour ça qu'on vous disait, je vous disais, il y a l'expérimentation, la répétition et l'installation. Et c'est intéressant de ce que vous dites, parce qu'on prend par exemple le cannabis, on peut de façon euphorique le faire avec des potes, parce qu'il y a une petite soirée, on rajoute l'alcool par-dessus tant qu'à faire. C'est très euphorique, les jeunes rient beaucoup, ça peut donner faim. Enfin, les effets d'un produit sont différents d'une personne à une autre. Et à un moment donné, quand ça s'installe en solitaire, oui, là, il y a une bascule qui se fait. Il y a une bascule qui se fait au niveau psychologique, au niveau de la personne. Et là, je pense qu'au niveau des familles, on en reparlera peut-être, c'est au niveau du repérage.
Dans la grande partie.
Voilà, c'est un peu, c'est complexe. Mais je pense qu'il y a un passage qui est fait, c'est-à-dire que la personne, dans l'installation, ça se fait au niveau des potes du collectif. Et après, l'individuel est un signe. Voilà, quand on fait une évaluation avec un jeune, c'est intéressant de voir combien il fume, parce que l'ivresse cannabique, par exemple, c'est à partir de 4 juin. C'est un peu comme on peut avoir une ivresse au niveau de l'alcool. On nous parle de beaucoup de choses dans la vie, mais on ne nous parle pas au niveau, par exemple, d'une ivresse alcoolique, comment ça se passe, parce que quelque part, c'est très banalisé.
Je comprends, oui. Alors, on va écouter Sicut Servus, Giovanni Pierluigi da Palestrina. C'est un italien.
Oui, c'est le groupe, c'est l'ensemble vocal Vox Laudis pour saluer des personnes de Lyon d'où je viens.
Ah, très bien.
Oui, il y a une histoire.
Thank you.
nous retrouvons Pause Famille, toujours sur RCF Poitou. Et nous sommes avec Sophie Deloume qui nous parle d'addiction. Alors, pour sortir, enfin, est-ce qu'on peut sortir d'une addiction ?
Oh oui, fort heureusement. Fort heureusement.
Et alors, est-ce qu'il y a un pourcentage de gens qui sortent ou pas ?
Non, je n'ai pas en tête au niveau du pourcentage. On a vu quand même que les entrées en centre de cure, par exemple, qui sont très connues dans le secteur addictologique, ça a un petit peu baissé. C'est un petit peu baissé. Il y a, comment dire, autant la maladie addictive est plurielle, elle est interdisciplinaire, transdisciplinaire, c'est ce qui fait aussi sa richesse, ça n'est pas que médical. Mais comme je disais au début de l'émission, heureusement que les médecins ont mis les mains dans le cambouis à une certaine période. Je veux dire, il y a plein de façons aussi d'être pris en charge. Mais je veux dire, le chemin, il est long. Le chemin, il peut être long en fonction, comme je disais tout à l'heure, en fonction de la sévérité de la maladie addictive de la personne. Entre une personne ou entre un jeune, par exemple, qui tombe dans le cannabis, certains, à un moment donné, en remettant du sens dans leur vie, en étant bien entourés, en reprenant, ils peuvent reprendre une vie, heureusement, fort heureusement, tout à fait normale et équilibrée. Pour d'autres, ça va être le parcours du combattant. Et là, je fais un petit zoom sur... hier soir, il y avait une excellente émission sur LCP, hein, sur Mon enfant chéri. Et je pense qu'il y aura un replay, comme souvent avec LCP. Et c'était, je l'avais vu à peu près 2 ans en arrière déjà. Là, j'ai eu le plaisir de le revoir avant qu'on se rencontre, ouais. Marie-Vonne. Et là, c'était vraiment une souffrance. C'était intéressant aussi de voir l'angle des parents, hein, comment ils se situent, eux, par rapport à un enfant où ils n'arrivent pas du tout à le relever. Ou alors, il faut un temps fou pour le relever. Et on voit de très, très beaux exemples, de très, très bons exemples de rétablissement, par exemple.
Alors, est-ce que... J'ai mon fils, quand il était en troisième, tout d'un coup, à la Toussaint, ça est tombé du ciel, il a eu envie de travailler. Et il a changé de groupe d'amis. C'est-à-dire que, pour caricaturer, il est allé avec le boutonneux qui avait des lunettes épaisses et qui était un bosseur. Et il a laissé ceux qui étaient un peu des joyeux lurons. Est-ce que pour les histoires d'addiction, il n'y a pas aussi... le groupe qui a son importance ou le non-groupe, enfin changer de groupe.
C'est important ce que vous dites. Et je pense que je reprends un peu un schéma des années 90, un vieux schéma d'un psychiatre qui s'appelait Goodman. Et c'est le premier. Et je pense que ça n'a pas trop vieilli en disant que les addictions, c'est la rencontre entre une personnalité, un environnement et le produit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un environnement où votre fils va choisir le premier de la classe, entre guillemets, oui. Et l'autre va choisir un peu des bad boys, parce qu'il aura besoin de se donner une consistance, parce qu'il va se trouver bien dans ce groupe, il va se sentir accepté. Et je pense qu'il y a des personnalités aussi, c'est pas forcément celui qui est complètement introverti sur lui qui va plus tomber dans les addictions. Pas forcément. Je pense qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vulnérabilité de la personne ? Est-ce qu'il y a des antécédents particuliers ? C'est pour ça que c'est pas un profil au niveau des personnes qui peuvent basculer dans une dépendance ou une addiction. C'est vraiment des profils différents. Mais je pense qu'il y a des personnalités, des prédispositions, et, hélas, plus fragiles. Il y a un environnement, c'est un bon exemple au niveau de votre fils, qui fait que certaines personnes, ça va être plus difficile.
Alors, est-ce que... moi, j'ai entendu quelqu'un des alcooliques anonymes dire « il a fallu que je tombe au fond du trou » que je ne vois plus mes enfants, que ma femme se soit barrée, que au niveau professionnel, j'ai des problèmes. Il dit, c'est là où j'ai franchi la porte des alcooliques anonymes. Alors, est-ce qu'il faut vraiment être au fond du trou pour accepter de changer ?
Ça dépend des profils, c'est toujours pareil. Je pense, si on prend un peu les chiffres de prise en charge, on parlait des centres de cure, je pense que les moyennes d'âge sont entre 40 et 50 ans. Donc, ça veut dire que les personnes sont rentrées depuis 20 ans. Dans une addiction, admettons l'alcool ou d'autres produits. Mais voilà, il y a des cas de figure à juste titre comme cette personne. Oui, certaines personnes doivent toucher le fond de la piscine pour pouvoir se relever, hein, et avoir un rétablissement et se retrouver eux-mêmes et leur vie. Et là, c'est un long chemin, c'est véritablement un combat. C'est véritablement un combat. Certaines personnes doivent passer par là. Maintenant, je pense qu'on en parle de plus en plus. Les médecins sont peu ou prou formés au niveau des addictions. On lève un petit peu le tabou. On a encore un peu de mal dans certains coins de la France ou chez certaines personnes à lever ce tabou. On essaye de faire des repérages précoces. Un jeune médecin poitevin, qui doit créer sa patientèle, certains seront beaucoup plus sensibles. J'en ai rencontré un certain nombre dans le sud de Vienne, où je suis installée. Mais voilà, ils peuvent tester la personne, la questionner. On fait confiance à son médecin et un secret médical. On peut déposer ce qu'il y a de plus intime. Et on peut déposer à un moment donné, comme les sages-femmes en termes de périnatalité, pardon. Je veux dire, les femmes vont plus facilement, quand elles sont enceintes, parler du tabac. L'alcool reste encore tabou. Donc voilà, on peut éviter quand même d'entrer et de s'auto-détruire pendant 20 ans et pouvoir se relever. On a vraiment plusieurs cas de figure.
Alors, si on fait un micro-trottoir, je suis sûre que l'homme de la rue dira de toute façon, c'est facile de sortir d'une addiction, c'est une question de volonté.
Non, l'abolition ne fait pas tout, on est bien d'accord. À un moment donné, c'est un peu de ce que vous dites, est-ce qu'il faut toucher le fond ou non pour pouvoir se relever, avoir ce fameux déclic, avoir un kairos, c'est-à-dire un bon moment pour se rétablir, c'est une chose. Mais après, l'abolition, elle a quand même des limites. On est sur des maladies cérébrales, pas seulement, compulsionnelles, donc qui allient une histoire de vie, c'est pour ça que c'est la complexité, une histoire de vie avec, comme on le disait, une personnalité, un environnement. On sait très bien que pour se rétablir, il faut à un moment donné casser ses habitudes. Et c'est compliqué de casser des habitudes, c'est vraiment faire un travail. Je suis encore une Lyonnaise à distance, en visio. Voilà, au bout de 4 ans, c'est comment prendre conscience de son environnement, de travailler sur soi, de travailler sur son environnement pour pouvoir casser des habitudes. Je me souviens, j'étais observatrice d'un groupe dans une clinique lyonnaise. Une dame me dit en me provoquant, oui, il faut aussi déménager. Alors certains vont aussi peut-être déménager, changer de travail, changer d'environnement. Je pense quand on parlait d'environnement tout à l'heure avec l'exemple de votre fils, à un moment donné, il y a un peu moins des compagnons ou des compagnes de boisson. Je veux dire, à un moment donné, oui, il faut vite dans le parcours de soins.
Sentent, c'est ce qu'on dit. On dit que ceux qui ont une addiction à l'alcool sentent dans un groupe.
Oui, je pense qu'il peut y avoir des petites antennes peut-être qui font en télépathie, qui font que... Mais je pense que oui, il y a des stratégies d'achat, des stratégies de boire et de consommer. Donc à un moment donné, casser ses habitudes, modifier les changements, c'est facile à dire, c'est très dur parce qu'on installe des habitudes dans nos vies. Et voilà, et ces personnes, la spécificité addictive, c'est aussi le fameux craving qui est né à l'université de Bordeaux. Et ce craving est une spécificité addictive, c'est-à-dire que la personne a une envie, une pulsion irrépressible de consommer ou de pratiquer son addiction. Ça peut durer 10 minutes sur l'instant, mais d'autres, ça va complètement envahir et vont partir sur des week-ends de consommation. Ça va monter, ça va descendre parce qu'ils vont utiliser des produits différents.
Alors, il reste 5 minutes. Donc, j'aimerais bien que pendant ces 5 minutes-là, on se mette dans la peau de jeunes parents qui ont des enfants. Alors, quand ils ont 3 ans, le problème ne se pose pas. Mmh. Mais après, quand ils grandissent, est-ce qu'on peut éviter... est-ce qu'on peut éviter qu'un jour ils deviennent...
C'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense qu'on peut rassurer ou réassurer les parents. C'est qu'en tant que parent, c'est faire comme on peut. Il n'y a pas de diplôme à la parentalité,
non,
c'est faire comme on
saurait.
Peut. Exactement. Après, il y a des enfants vraiment différents. Hein, dans le documentaire, je repense au documentaire d'hier, mon enfant chéri, où les parents se confrontent à peut-être cet idéal d'enfant qu'on peut avoir. On a un idéal d'enfant et on se rend compte que la réalité, le réel, nous renvoie à autre chose. Où ça peut être un enfant beaucoup plus sensible, un enfant beaucoup plus fragile, un enfant beaucoup plus vulnérable. On peut dire aussi qu'il y a peut-être des familles, entre guillemets, addictives, entre guillemets. Hein, parce que souvent, on voit les alcooliques, ils réalisent leur génogramme pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire familiale, dans transgénérationnel, comme on dit. Il y a des choses qui peuvent se répéter. Non, je pense qu'il faut laisser cette porte ouverte en disant qu'il y a un possible. Il y a un possible. Et à un moment donné, il y a une malchance qui fait que ça peut tomber sur un enfant et pas un autre. Les parents du témoignage d'hier, c'est pas, entre guillemets, des cas sociaux. Et une famille, c'est pas Disney non plus. C'est pas Alice. C'est à un moment donné...
Non,
une famille,
sûr.
C'est de la négociation. Une famille, c'est de la négociation. C'est de l'amour. On enveloppe l'autre. On lui transmet des valeurs pour faire grandir au mieux. Mais à un moment donné, oui, qu'est-ce qui fait qu'il y a la mauvaise rencontre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça glisse? Qu'est-ce qui fait qu'il y a, des parents séparés? C'est pas forcément... Ça peut être traumatique pour un enfant, hélas. Il y a
oui,
tous les cas
tous les enfants... Enfin, dans un groupe classe, dire, il y a une bonne partie... dont les enfants sont, enfin, dont les parents sont séparés et ils ne viennent pas tous ni alcooliques,
ni
fumer leur joint le samedi. Alors, d'un autre côté, c'est vrai que les parents, ils vont mettre dans un bon établissement, je pense, par exemple, il paraît que c'est plus facile de trouver de la drogue à la sortie des bons lycées du 16e arrondissement de Paris que des lycées du 18e.
Ah ben peut-être parce qu'il y a plus de moyens pour acheter son produit.
C'est ce qu'on dit.
Et je pense qu'aussi les internats, moi j'ai pu rencontrer des cas, j'ai découvert ça beaucoup plus au Poitou, les internats où l'alcool va être interdit, donc les jeunes vont basculer sur le cannabis. Et c'est, chez certains, ça va s'installer. À l'inverse, le cannabis va être interdit, ça va basculer sur l'alcool. On sait que c'est des âges où on transgresse, où on expérimente. Pas tous les jeunes. Certains, il y aura un équilibre de vie et avec le sport, la famille, les amis, la musique, et ça ira très bien. D'autres vont être un peu plus curieux et plus transgressés parce qu'il y aura une personnalité où il y a un terrain addictif qui est un peu plus sensible. Mais ça, au niveau de son enfant, on ne le sait pas forcément. Donc voilà, on voit des parents après, quand l'enfant tombe un petit peu dans l'addiction, ils vont fouiller, ils vont comment rétablir après une confiance, parce que c'est compliqué aussi à ces âges-là. Il faut être sécure au maximum, poser des limites. L'enfant va vouloir transgresser, dépasser ses limites. Donc comment autoriser l'enfant, voilà, parce qu'on découvre le monde extérieur à la préadolescence, tout en étant là, en disant je serai toujours là près de toi, en étant sécure. Après, est-ce qu'il faut forcément à 20h au dîner de famille parler addiction? Je pense qu'il faut toujours, avec des préadolescents et des adolescents, parler de façon un peu diagonale. Mais tiens, j'ai vu un documentaire. Tiens, on a vu un tel et un tel. Il faut lever. Ça existe. Les produits sont là, ils sont partout.
Oui, ils sont partout. Et est-ce que les vendeurs de shit, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, est-ce qu'ils vont pas repérer à la sortie du lycée ceux qui vont être plus fragiles, ceux qui risquent?
Non, je ne pense pas. Je pense que les produits, ce n'est pas forcément le dealer à la sortie. C'est qu'à un moment donné, il y a des stratégies d'achat qui peuvent se faire dans des quartiers peut-être plus populaires. Hein, je veux dire, au niveau de la police, on prend Poitiers, ils savent très bien où sont les points de deal. Voilà. Après, ça peut être d'autres, comme vous disiez, c'est un peu caricatural de dire, voilà, le 16e, il y a des moyens, s'ils veulent avoir de la cocaïne, ils peuvent se trouver de la cocaïne.
Oui, en fait, moi, j'avais entendu ça parce qu'on disait, les élèves du 16e, ils ont plus d'argent de poche que ceux du 18e.
Tout à fait.
Mais bon,
c'est une réalité.
Voilà. Mais dans le 16e, il y a aussi les enfants des gardiennes d'immeubles qui n'ont pas forcément des moyens extraordinaires.
Exactement.
Moins que le PDG de je ne sais pas quelle grosse boîte.
Exactement.
Voilà. Malheureusement, Pause Famille se termine. Merci. Sophie, on vous écouterait encore longtemps. J'avais encore plein de questions à vous poser. Donc, on n'oublie pas Guillaume qui remplace Eric ce matin la vitre. Voilà. Bonne semaine à tous. Si vous voulez écouter et réécouter cette émission, elle est sur la balado-diffusion du site et vraiment du site de l'émission. Vraiment, n'hésitez pas. Écoutez-la, réécoutez-la. Jusqu'à l'apprendre par cœur, parce que peut-être que ça vous rendra service à un certain jour. Voilà, bonne semaine à tous.
Merci Marie-Val.
Et merci Sophie.